Je pense que beaucoup d'entre vous peuvent avoir des tas de questions à vous poser.
La question porte sur le deuxième étage, enfin la forme des arcs du deuxième étage au niveau de la cour. Est-ce que c'est du Viollet-le-Duc ?
Oui. De la tour ?
Oui.
Non, ce n'est pas du Viollet-le-Duc. En fait, vous avez au musée un des blocs qui a été récupéré. En fait, c'est là qu'on avait mis la pendule. Donc, en fait, ça avait cassé le réseau de polylobé, là. Et en fait, nous avons les pierres d'origine dans le musée. Hein, et le Viollet-le-Duc n'a fait que reconstituer les pierres parce qu'elles étaient brisées. Et il avait projeté de refaire des colonnettes en bronze pour les deux fenêtres de la tour et de refaire également des bacini, de refaire reproduire des bacini pour réincruster sur la façade. J'en profite pour du coup ouvrir une petite discussion. Je pense que vous avez vu qu'il y a des restes de liant, de ciment d'origine qui tenaient les bols au fond des coupes. Il aurait fait ça, nous ne pourrions pas analyser le ciment en question. Toutes ces traces-là sont des traces qui sont extrêmement riches de renseignements. Nous avons la chance aujourd'hui de plus avoir besoin toujours de réincruster des faux plats, qui restent des faux dans ce cas-là, de toute façon, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y était. Et que si on veut suggérer aux visiteurs, pour leur faire comprendre véritablement à quoi ressemblait la façade, si on veut leur suggérer l'état initial, nous avons la chance d'avoir l'infographie. Je me suis amusé rapidement à le faire en incrustant un plat dans la fenêtre, que vous avez vu, et je crois que là, on peut faire comprendre effectivement très facilement à tout le monde à quoi ressemblait cette façade sans avoir à la toucher.
Oui, écoutez, on vous a écouté avec passion, mais vous rejoignez quand même une question qui continue à me tarabuster et à laquelle je n'ai pas encore de réponse définitive, même après vous avoir écouté. C'est la fonction initiale de l'édifice, parce que maison romane, quand vous le terme même et tous les éléments que vous nous avez donnés... lui assigne une fonction à ce moment-là quand même de privative, enfin un domicile qui serait une aula qui est destinée à la réception aussi, nous avez oui. Vous dit, etc. Voilà, donc une famille qu'il y a là-dedans, une famille de notables, évidemment. Mais en même temps, quand même, la décoration nous renvoie tellement à sa fonction publique, finalement, d'être... quand même une salle, un palais de justice en réalité à l'échelle de la vicomté, qu'on peut se demander quand même au départ quelle est la part d'une fonction, la part de l'autre. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une prédominance, moi j'en ai quand même le sentiment, de la fonction publique finalement sur la fonction privée, même si le juge en définitive décide d'y établir son domicile et d'y mettre sa famille, quand même ce qui est prioritaire, c'est d'avoir un édifice qui lui permet de rendre la justice avec toute la solennité et la signification que vous avez si bien fait ressortir.
Incontestablement, l'image qui est donnée est celle d'un édifice public. C'est celle d'une maison de justice. Ça, je crois que c'est incontestable, la claire-voie. Ah, j'ai oublié de vous rappeler aussi que la sculpture était partiellement polychrome. Hein. Vous aviez des rayons de couleur, Justinien avait des traces de bleu, encore de rouge, etc. Donc, il faut imaginer quelque chose de très visible. Oui, la fonction publique est essentielle. Mais la fonction publique n'exclut pas la fonction privée. Voilà. Alors après, la question qui se pose, c'est qui a choisi ? Est-ce que ce sont les vicomtes qui, en accord avec leur viguier, se sont dit, et a priori on aurait tendance à le penser, sauf si effectivement, et ça fait partie des axes de recherche qui peuvent subsister, sauf s'il s'avérait que cette famille de Groyer soit effectivement une famille dont on s'apercevrait que le cousin était lui-même en contact avec un clerc qui lui-même à Bologne travaillait ou à Montpellier, etc. Donc là, c'est tout le travail qu'il y a à faire sur cette famille de Groyer, que l'arbre généalogique ne concerne que les personnages qui apparaissent dans les actes de Saint-Antonin. Nous savons que c'est un proche de vicomte. Donc c'est vraiment la connaissance plus large de ce milieu qui nous permettra peut-être de dire que voilà, c'est effectivement plutôt le vicomte ou plutôt le viguier. Il est évident que de toute façon, ça ne pouvait pas se faire sans l'aval des vicomtes. Pardon, au nom desquels la justice était rendue, bien évidemment. Nous avons des exemples, alors je n'ai pas revu toutes mes sources de ce point de vue-là, de rois de France qui couchent dans la salle dans laquelle ils rendent la justice. Hein. On tire des rideaux le soir et voilà.
C'est quand même pas ça qu'on appelle un lit de justice.
Non, ce n'est pas ça.
une question, oui. Comment expliquez-vous la différence de niveau entre la tour et la maison proprement dite?
Ça tient en fait au passage sur la rue qui impose de décaler l'étage.
Oui, une précision. En réalité, cette maison, je pense, avait trois fonctions. Elle était une habitation, elle était une maison publique puisqu'on y rendait la justice, mais au rez-de-chaussée, elle avait des fonctions commerciales, oui, avec les trois arches. C'est-à-dire que ça peut reposer des questions sur le promoteur, l'ordonnateur de cette maison. Qui vraisemblablement n'était pas quelqu'un de noble, mais au contraire quelqu'un de bourgeois enrichi dans la mouvance du vicomte.
Non.
Non.
Non pour, bon, non pour votre conclusion.
Oui.
Parce que dans les palais italiens, quand on construit des boutiques, c'est pas parce que ce sont des marchands qui construisent le palais. C'est que celui qui construit le palais n'est pas stupide. Il sait que le rapport que vont avoir les boutiques, qu'il va louer ou vendre d'ailleurs, en fonction des besoins, sont absolument essentiels pour lui. Et ça, on le retrouve véritablement. Vous savez, on a l'idée, c'est un débat qu'on a beaucoup entre personnes qui travaillent sur la maison du Moyen-Âge. Quand vous voyez ces rues avec boutiques et fenêtres médiévales au-dessus, est-ce que c'est celui qui est dans la boutique, est-ce que c'est le même que celui qui est à l'étage? C'est pas du tout démontré. Voilà. Comme vous avez aujourd'hui, d'ailleurs, vous prenez l'exemple d'une rue marchande d'une ville aujourd'hui. Eh bien, en général, celui qui est dans la boutique n'a rien à voir avec celui qui habite. Voilà. Alors après, comment ça se construit? Là, je pense que, vu l'édifice, les boutiques ont été voulues par le constructeur. Voilà. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'elles ont été vendues. C'est-à-dire qu'on a des actes d'achat et de revente des boutiques qui étaient un coup pour un notaire, un coup pour un marchand, etc.
Devant Taréméré, où le vendeur récupérait la boutique après un certain temps.
En plus.
En attendant d'autres questions, moi j'en ai une qui vous sera chère, Maurice Sellès, c'est sur l'intensité de l'étude sur cette maison romane. Vous avez fait un travail énorme il y a 30 ans.
Oui.
Et qu'est-ce qui s'est produit depuis? Est-ce qu'on a continué de travailler sur cette maison romane?
Non.
Beaucoup d'entre nous sont arrivés à cette conférence avec l'idée qu'on savait déjà tout et que vous alliez nous le dire et que c'était fini. Mais en réalité, votre exposé a montré qu'il y a beaucoup de questions encore ouvertes de tous ordres, historiques,
oui, archéologiques aussi. J'ai oublié, je voulais vous en parler, mais s'il y a les premières réponses qu'on pourrait avoir, elles sont dans la cour, à l'arrière. Puisque là a priori, on a des couches archéologiques importantes. Donc là, il faudrait absolument fouiller. Je sais pas, on a parlé à un moment donné pour la réutilisation du bâtiment, par exemple, on pourrait très bien refaire le grand degré extérieur, puisque vous le savez, un lieu public nécessite une entrée et deux entrées-sorties. Donc là, il est très facile et on ne toucherait même pas le bâtiment médiéval, puisque c'est le mur du 19e siècle. Donc refaire une porte et refaire un grand degré extérieur. À l'occasion d'aménagements qui seraient raisonnés sur l'ensemble, bien évidemment. Et dans ce cas-là, il faut fouiller la cour. Et savoir, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment à l'arrière. Peut-être qu'on ne les trouvera pas, parce qu'il y a eu la halle entre-temps, hein, des occupations pendant des siècles. Bon, mais on sait que l'archéologie permet parfois de trouver bien des choses qu'on ne soupçonne pas. Donc c'est une première piste. La deuxième piste, elle relève ensuite des techniques d'études qui peuvent s'améliorer. Effectivement, il y a un jour peut-être où des gens on étudie déjà de façon très précise les traces de taille, hein, mais peut-être qu'on les étudiera encore plus précisément. Les études qui ont été faites sur le tympan de la porte Miégeville à Saint-Sernin-de-Toulouse, par exemple, il y a maintenant quelques années, ont montré, par exemple, qu'il y avait un sculpteur qui était gaucher. Parce que quand vous analysez les traces d'outils, quand elles sont bien conservées, ce qui est le cas pour le tympan de Miégeville, eh bien vous pouvez aller jusque-là, c'est-à-dire quel type d'outils, quel geste, quel... Voilà. Donc il y a beaucoup de pistes. Et puis après, il y a toutes les recherches historiques, effectivement, dont nous parlions, sur les Lautrec. Parce que pour l'instant, bon, ben, la seule mention que nous avons par rapport au Lautrec, c'est notre frère qui est évêque de Toulouse. Et on sait que l'évêque de Toulouse, à ce moment-là, ben, Raymond est un Lautrec. Donc voilà, il y a encore du travail qui peut être fait.
Est-ce qu'on a une idée de l'endroit d'où viennent les pierres?
Pour Pour ma part, non. Mais je n'ai travaillé que sur cet édifice, j'avoue que je n'ai pas cherché, je l'ai su à un moment donné, parce que mes collègues avaient travaillé sur les autres maisons aussi, et sur les carrières. Alors je l'ai complètement oublié. Pour se reporter aux publications, je suis désolé. Je sais que c'est un calcaire bon, qui est de très grande qualité, qui présente un défaut, c'est qu'il a des noyaux de calcite. Et donc, en fait, le sculpteur, de temps en temps, était embêté parce qu'effectivement, il est tombé sur un noyau de calcite. Alors, parfois, il a pu décaler son motif un peu. Et parfois, ben, ça se retrouve au plein milieu de la joue d'un personnage.
Merci.
Comment se fait-il qu'on ait, à l'époque, compte tenu de tout ce que vous avez dit, l'école d'où sortait Viollet-le-Duc, donc son côté administratif et officiel, qu'on ait laissé passer un toit qui n'a pas trop d'équivalent dans le coin?
Un toit, pardon.
Oui, le toit du campanile.
Ah, le toit du campanile.
De la nouvelle tour. C'est pas du tout dans le genre des toits. Non. Il y en a un à Toulouse comme tout. Ça, qui est un des rares dans le même genre, avec un toit débordant comme si on était dans la Saône.
Est-ce que si je vous réponds la doctrine des monuments historiques est quelque chose qui est parfois ferme, parfois souple, parfois absent, et selon les époques et selon les personnes. C'est à peu près la réponse.
C'est vous l'expert, moi j'écoute.
Ah non, moi je ne suis pas expert en monuments historiques. C'est un service respectable que je respecte bien évidemment.
Non, s'il y a plus de questions de... Parce que on me dit que ça va finir.
Non, vas-y.
Ah non, mais bon. Si tous ces considérations sont extrêmement importantes pour comprendre ce bâtiment et comprendre l'époque, c'est ce que vous avez essayé de faire. Je signalerai aussi que moi, ça ne m'étonne pas tellement. Enfin, j'ai plutôt des éléments de réponse à votre question sur l'exceptionnalité de la chose. Parce que vous n'avez pas eu beaucoup de réponses. Et en fait, si on fait le parallèle avec la richesse culturelle de cette région, et de Saint-Antonin aussi en particulier, à cette époque-là, rien n'est exceptionnel, puisque les intellectuels de cette époque, d'ici, rayonnent quand même sur toute l'Europe. Donc je vois pas pourquoi...
Mais parce que vous avez des intellectuels du même ordre qui sont en contact avec les intellectuels d'ici, et qui sont ailleurs, et qu'ailleurs, on n'a pas la maison romane de Saint-Antonin.
Non, mais moi je dis quelque chose quand même. Peut-être c'est un peu tiré par les cheveux, mais... enfin, c'est pas tiré par les cheveux, les informations que je peux donner, mais c'est peut-être un peu tiré par les cheveux ensuite de faire une relation entre les œuvres intellectuelles et les œuvres artistiques, par exemple de l'écrit et tout ça, et les œuvres d'architecture ou les œuvres de peinture ou tout ça. Ça, c'est peut-être un genre. Mais quand on voit le rayonnement... Par exemple, des troubadours, dont deux sont ici, même trois, dans toute l'Europe. Et comment ils sont, c'est les stars intellectuelles, enfin, poétiques et musicales de l'époque. Ça prouve quand même qu'il y a ici des gens, des seigneurs, des personnes, même des bourgeois, qui sont extrêmement sensibles à ces questions d'art. Donc, pourquoi seraient-ils si pionniers en Europe sur les questions de poétique, de musique et tout ça, et pourquoi ne le seraient-ils pas sur les autres domaines? Oui, mais je ne dis pas qu'il y a une relation, parce que je n'en sais rien. C'est une réponse en forme de question aussi.
Il y a évidemment une relation. Hein, le milieu, si on élargit, c'est-à-dire que ce n'est plus une question de simplement de personne, mais de milieu, le milieu qui a réalisé cette maison, avec ses éléments exogènes, bon, c'est évidemment un milieu très cultivé. Ça, c'est clair. Et donc, la poésie occitane en la matière en fait partie de cette culture. Et elle rayonne, effectivement, et eux sont capables, effectivement, d'avoir les dernières informations sur les études sur le droit romain. Tout à fait. Mais il n'empêche que les Baccini que vous voyez à Saint-Antonin, eh bien, vous en trouvez jusqu'à la vallée du Rhône, à peu près, hein, et puis après, vous n'en trouvez plus. C'est la limite la plus occidentale. Et ça, puis c'est l'accumulation du tout. Parce que quand vous regardez ces édifices italiens qui ont ces Baccini, ils n'ont pas en même temps, en tout cas ceux que je connais, il y en a peut-être pour lesquels c'est le cas, ils n'ont pas en même temps un sculpteur d'une telle qualité. Alors oui, il y a un milieu, effectivement, à Saint-Antonin, qui permet de faire ça. Ça, on est d'accord.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
C'est peut-être une question idiote, parce que je ne suis pas du tout féru de ces questions, mais j'aurais une réaction comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir entre... ce qui semble être très important dans le passé de Saint-Antonin, c'est-à-dire ce que les rois ont donné comme droit particulier à cette ville, et qui doit forcément avoir imbibé l'esprit des bons citoyens de la ville, ou des plus malins, et puis l'exceptionnel bâtiment. Est-ce que ça peut être pour ça que ce bâtiment serait...
Non, parce que c'est plus tard.
De fanfare en faveur du droit.
Non, parce que c'est plus tard.
D'accord.
L'arrivée du roi de France, du pouvoir du roi de France, est plus tardive. Que je sache.
Oui.
Le vicomte de Saint-Antonin relève du roi Ergue. Et le roi, un peu comme... Même si ça remonte après au roi de France. Mais on est, en plus, c'est le comte de Toulouse qui est comte de roi Ergue. Et le roi n'intervient qu'avec Alphonse, en fait, par premier relais, et ensuite, après la mort d'Alphonse, par attachement à la couronne de France. Mais le Rouergue n'est pas rattaché directement à la couronne de France. D'ailleurs, je crois que le statut est différent de celui du Quercy, de ce point de vue-là.
Est-ce qu'il n'y a pas même une relation avec les chartes de coutume qui sont accordées exactement à la même période?
Bien sûr.
Hein, très concomitamment.
Oui.
Je ne sais pas, 10 ans près ou 5 ans près.
C'est 1140, 1144, je crois.
Voilà.
Sorte de coutume d'après mes
révisions. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les deux?
Bien sûr, on est exactement dans la même ambiance. Et les chartes de coutume mentionnent le viguier. C'est pour ça qu'on a pu dire que Ponce de Groyer est probablement le viguier des vicomtes. Parce que le charte de coutume le mentionne.
Oui, j'ai une question un peu idiote. C'est que je crois me souvenir, mais je ne l'ai jamais vérifié, que la première fois, moi je suis originaire du nord-est de la France, hein, que la première fois où j'ai vu cette maison romane, c'est sur la couverture de manuel d'histoire des années 40, des Malaisac et tout. C'est un rêve ou c'est une réalité?
Je suis un peu postérieur.
Oui.
En ma qualité de spécimen très antérieur, je confirme que dans un manuel scolaire que j'ai eu au lycée Ingres à Montauban, figurait l'hôtel de ville de Saint-Antonin, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait.
Oui.
Il avait été couronné finalement comme modèle d'hôtel de ville par la Troisième République, je pense. Et on ne comme symbole de la renaissance des libertés locales, justement, au Moyen-Âge. Voilà. Donc il a été utilisé, oui, à titre d'outil pédagogique, erroné, on le voit maintenant, puisqu'il n'a pas été construit pour être un hôtel de ville, il est devenu
oui,
après.
Mais
ça faisait partie de la vulgate pédagogique, oui. À mon avis, du... La première moitié du XXe siècle, on va dire.
En fait, Viollet-le-Duc a beaucoup hésité dans ses dernières éditions. En fait, il adopte le principe de l'hôtel de ville. Donc, effectivement, ça va faire monter l'hôtel de ville comme représentant, effectivement, des libertés locales. En fait, alors le débat s'est poursuivi tout au long du XXe siècle, jusqu'aux années 80, jusqu'à aux derniers travaux. Mais en fait, ce qui est remarquable quand même, c'est que les consuls achètent cette maison, et ils savent très bien pourquoi ils l'achètent. Donc elle devient effectivement une belle représentation des libertés communales.
S'il n'y a pas d'autres questions.
Le viguier, vous parlez du viguier.
Le viguier, c'est un représentant du vicomte qui exerce le pouvoir en son nom. Voilà, vous avez des toponymes qui existent, la viguerie par exemple. Hein. Bon, des fois c'est autre chose. Quel est l'autre terme qui est utilisé dans le nord de la France? Il y a le bailli, c'est ça, hein. Voilà.
S'il n'y a pas d'autres questions. Je voulais seulement d'abord remercier Maurice Sélès, on n'a pas fini avec lui. Je voudrais dire à ceux qui ont envie de revenir sur cette conférence qui pourront le faire assez vite, d'une part parce que ce qui est illustratif dans son propos, qui est ce qu'il a projeté à l'écran aujourd'hui, on va certainement en faire la matière d'un article dans notre bulletin de l'année prochaine. Et pour ce qui est de ce qu'il a dit, ce qu'on a pu entendre de votre conférence et même du débat qui suit, ça a été enregistré avec l'aide de Jean Péricas, qui est là parmi nous, comme pour les autres conférences. Et donc, dans quelques jours, ce sera consultable sur le site internet de l'association. Profitez-en si vous avez envie d'y revenir. Voilà.
Merci à tous. Bonne soirée.